Alors ça, je m'en réjouis. Je crains juste qu'au fond, on ait du mal à se percevoir. Vous voyez bien ? Alors je demande vraiment, autant que vous le pouvez, la plus grande attention, simplement par sympathie, pour qu'on puisse, que moi je puisse mieux vous parler, et puis que chacun puisse en profiter au maximum pendant votre retraite, cette confirmation. J'ai encore une question à vous poser, quand aura-t-il votre confirmation ? 16 mai. 16 mai. D'accord. Et donc là, c'est un premier temps fort, il y en aura d'autres par la suite. Et vous reviendrez à mon livre ? Alors, donc je me présente, je suis le père Anne Guillaume Vermacht. Anne Guillaume, c'est mon prénom, c'est un prénom de communauté, je suis prêtre de la communauté Saint-Martin, il y en a peut-être quelques-uns qui connaissent la communauté Saint-Martin. Le sanctuaire est effectivement a été confié à quelques prêtres de ma communauté. Et moi-même, je suis prêtre depuis 7 ans, donc ici dans ce sanctuaire. Voilà. Sans doute, tu as une question. Voilà, on est trois prêtres de la communauté, mais il y a d'autres prêtres aussi qui travaillent avec nous. Si vous voulez, je vais vous présenter mon livre, puis après, je vous laisserai poser toutes vos questions. Mais si on commence par les questions, je n'aurai pas le temps de vous présenter correctement le sanctuaire. C'est un sanctuaire très original. On vous a dit tout de suite qu'on venait ici de la France entière à Montligeon en pèlerinage, donc dans ce sanctuaire. En fait, on ne vient pas de la France entière, on vient du monde entier. Alors, je vais vous raconter un petit peu ce qui se vit ici dans ce sanctuaire. Et puis, je vais vous donner aussi le message du sanctuaire. Vous savez, comme tout sanctuaire, si c'est un sanctuaire, c'est qu'il y a un message, il y a quelque chose à puiser, il y a quelque chose à prendre, il y a quelque chose à découvrir de notre foi, de l'espérance de l'Église. Si vous allez, par exemple, à Lourdes, en fait, les 150 ans du sanctuaire de Lourdes, puisque la Vierge Marie est apparue à Lourdes, donc Marie, elle a dit des choses à Bernadette. Si vous allez à Lisieux, donc après l'apparition, il y a eu la Sainte Thérèse qui est née ici d'ailleurs, enfin tout près d'ici, et qui est allée au Carmel à Lisieux. Donc c'est un sanctuaire où on a à découvrir tout ce que veut nous enseigner Sainte Thérèse de Lisieux, le docteur de l'Église quand même. Voilà, elle a raconté sa vie, elle est devenue docteur de l'Église. Docteur, ça veut dire celui qui enseigne, pas celui qui soigne. Et alors à Montligeon, il n'y a jamais eu d'apparition, il n'y a jamais eu de révélation particulière, il n'y a jamais eu d'événement mystique ou d'événement spirituel particulier. À Montligeon, il y a juste eu un curé, il y a 120 ans, qui a eu le désir, l'intuition, la volonté, la foi et l'espérance, parce que c'est là où il y a un coup de folie ou un coup de génie, de construire ce sanctuaire de toutes pièces. Il faut dire que dans son histoire personnelle, il avait eu des deuils assez profonds, enfin, qu'il avait touché profondément, puisqu'il avait perdu son frère, alors qu'il avait à peine 30 ans, quoi, jeune prêtre. Son frère décède et il a eu peur un moment du salut de l'âme de son frère. Alors il a eu ce souci de créer un lieu, et ça n'existait pas encore dans l'Église, sauf que c'est l'Église elle-même est cela, de créer un lieu particulier où les vivants, sur terre, nous quoi, les pèlerins qui viendraient dans ce lieu, pouvaient donc prier d'une manière singulière pour tous ceux qui étaient décédés, pour tous les défunts, pour tous les morts. En fait, l'idée, c'est que nous vivons dans ce qu'on appelle la communion des saints. Vous connaissez votre je crois en Dieu, n'est-ce pas? Parce que vous avez fait votre profession de foi il y a moins quelques années. On récite le je crois en Dieu, on arrive à la fin, on dit je crois à la communion des saints. Et je suis pas très persuadé que tout le monde sait bien ce que représente, ce que signifie la communion des saints. Si je faisais un micro-trottoir parmi vous, j'aurais peut-être plusieurs réponses, et peut-être même des réponses contradictoires, voire des aveux d'ignorance. Je ne sais pas en quoi vraiment vous croyez et vous espérez si je vous parle de la communion des saints. Alors, soyez attentifs à cela. Vous allez être confirmé. Ça veut dire que vous êtes baptisé. vous êtes baptisé, et ça va être confirmé, donc par la confirmation, ça veut dire qu'il y a quelque chose en vous qui ne vous appartient pas. C'est l'Esprit Saint. C'est Dieu. Il y a en vous quelque chose de Dieu qui a été donné par Dieu lui-même, et c'est l'Esprit Saint lui-même, et c'est Dieu lui-même, et ça ne vous appartient pas. Alors, soit on ferme, soit on ouvre. Ça ne vous appartient pas, ça ne nous appartient pas. Dieu est venu en nous. Ça, c'est la grande révélation du christianisme. Pensez ceci, le christianisme, c'est la seule religion qui nous dit que Dieu se donne à nous, que Dieu vient jusqu'à nous, jusque en nous, à l'intérieur de nous. Si vous regardez toutes les autres religions de par le monde, les hommes sont tournés vers Dieu, un Dieu tout puissant, un Dieu trois fois saint peut-être, comme les Hébreux, les Juifs autrefois. Un Dieu très haut, mais jamais, jamais, les hommes n'ont eu l'idée que Dieu pouvait habiter le cœur des hommes, que Dieu pouvait venir sur terre, dans l'incarnation, que Dieu pouvait vraiment s'abaisser du haut du ciel jusque ici-bas sur terre et jusque descendre dans le cœur des hommes pécheurs. C'est ça qui est assez sidérant dans le christianisme. Le christianisme, c'est ce qui fait que dans notre force, et vous avez confirmé pour cela, on est fiers de ce Dieu qui s'est révélé à nous, et on peut affirmer que c'est la vraie religion, pas avoir peur de le dire, dans notre monde aujourd'hui. Et je pense que votre confirmation devrait vous confirmer là-dedans. Parce que, on en est sûr, parce que habite en nous, donc, Dieu lui-même. Et bien, voyez-vous, c'est ça la communion des saints. C'est de se dire que on est tous hyper différents. Même si je vous regarde tous d'un coup d'œil, vous êtes tous français, donc d'une certaine manière vous vous ressemblez tous si vous allez voir dans les autres pays du monde. Vous êtes tous du même âge, ça se trouve même classe, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui vous rassemblent, mais quand même individuellement vous êtes tous très différents. Et puis surtout vous êtes tous les uns à côté des autres et il n'y en a pas un qui connaît réellement son voisin. Personne ne peut dire ce que pense le voisin. Chaque personne ne peut dire ce qu'il y a dans l'intimité des pensées et du cœur de son voisin, de sa voisine. Vous voyez, donc on est tous des individus les uns à côté des autres, et on est tous hyper différents. Mais il y a une chose que nous avons tous en commun, une personnalité que nous avons tous en commun, c'est la personnalité divine. Il y a en nous l'Esprit Saint. Alors ça doit vous sidérer littéralement, quoi. Il y a en nous une personnalité divine. On n'est pas des schizophrènes, il n'y a pas moi et puis Dieu à l'intérieur, et comme si on devait se battre en permanence. Cette personnalité divine, cet Esprit Saint qui est en moi, cette troisième personne de la Trinité, habite en moi et fait que ma vie, quand par exemple je pose un acte, quel qu'il soit, un acte bon, on va dire un bel acte bon, d'un service que je vais rendre à mon frère, à quelqu'un, voilà, à autrui, eh bien, cet acte, à la fois, c'est moi qui vais le poser, et à la fois, c'est l'Esprit Saint en moi, c'est Dieu en moi qui va le poser. Ça veut dire que, quand vous allez, à partir de votre baptême, et ça va être confirmé, je vous dis avec votre confirmation, quand vous allez poser un acte, c'est bien vous qui allez agir, et en même temps, ça va être un acte divin. Nous sommes capables, dans la communion des saints, de poser des actes divins. Est-ce que vous pouvez me dire trois actes que j'espère que vous faites tous les jours, qui sont des actes proprement divins et qui en plus vous divinisent. Il n'y en a qu'un seul qui lève la main. Vous devez savoir ça depuis votre. Alors, regarde, c'est qui lève la main? Ah, il y en a deux maintenant, il y en a deux. Ah, il y en a deux, c'est ça. Ah, trois, oui, super. Alors, puisqu'il y a les trois lèvent la main, vous allez me donner les trois actes qui vous divinisent, au fond. Ben, alors, à travers la prière, vous mettez en jeu ces trois actes-là.
Le pardon,
pareil, à travers le pardon, vous mettez en jeu ces trois actes-là. Mais c'est juste que vous dites, hein, c'est pas assez précis, c'est tout, mais c'est juste. Voilà, la charité. Aimer. Être capable d'aimer. Ça, c'est le troisième acte. Il y en a deux avant. La foi, l'espérance, la charité. Notez ça, c'est fondamental. La foi, ça prend ni E ni S. La foi, l'espérance et la charité. Notez qu'on appelle ça des vertus. Alors, vertu, ça s'écrit avec un U, sans E, sans S. Enfin, ce sont des vertus, donc comme il y en a trois, on peut mettre un S. Des vertus théologales. Normalement, si vous êtes en train d'écrire, vous n'avez pas besoin de. Sauf si ce que je vous dis vous sidère à ce point que vous êtes obligé d'en parler à vos voisins, c'est ce qu'on appelle l'évangélisation. D'accord, autrement, vous pouvez vous taire. Alors, pourquoi je vous dis ça? Pour vous parler de mon liaison. Je vous parle de la communion des saints. Ces trois actes-là, la foi, l'assurance, la charité. Mais il y en a d'autres, vous m'avez dit prier, pardonner, donc aimer, c'est la charité, pardon. Ce sont des choses que nous avons en commun. Et qui ne viennent pas de ce qu'il y a en commun au niveau des hommes. Ça vient de ce qu'il y a. Parce que tout vient de Dieu. C'est pas parce que ça appartient à l'humanité. Ça n'appartient pas à l'humanité de poser un acte de foi, de connaître Dieu, ça appartient à la révélation de Dieu qui est venue jusqu'en nous. Donc si on est capable de dire « je connais Dieu, je crois en Dieu », eh bien ça veut dire qu'il y a Dieu en nous, et c'est Dieu qui nous unifie. Vous voyez, il y a deux manières de voir qu'on est tous solidaires les uns des autres. Il y a la manière humaine, nous sommes tous des hommes, nous sommes tous des fils d'Adam. Nous sommes tous des descendants d'Adam et Ève. Eh bien ça nous solidarise. Nous avons tous au moins un père et une mère en commun. Ça, c'est une certaine communion. Mais cette communion, elle est brisée. Cette solidarité, elle est brisée à cause du péché. En revanche, Dieu a reconstruit la solidarité entre les hommes à partir du don du Saint-Esprit, à partir de votre baptême, à partir de Jésus, Jésus nouvel Adam. Nous sommes tous nés du Christ. Notre vrai père, finalement, on pourrait dire ça, dans la foi, c'est le Christ. Dire ce que je dis. On est tous de nouveau solidaires parce que nous sommes tous nés du côté ouvert du Christ, comme Ève était née du côté ouvert du Christ, de Adam, pardon. Nous sommes tous nés du côté ouvert du Christ, c'est-à-dire nous sommes tous nés de l'eau et de l'esprit, de l'eau et du sang, de l'eau et de l'esprit, c'est donc par le baptême, par les sacrements de l'Église. Et bien voyez, nous sommes tous solidaires les uns des autres. Or, c'est, nous sommes solidaires entre nous, là, dans cette salle, mais pensez que quelqu'un qui est décédé, il est aussi. Solidaire parce qu'il est encore capable de poser les mêmes actes de foi, d'espérance et de charité. Son âme, sans son corps, peu importe le corps finalement, son âme au-delà de la mort, sans son corps, est capable de poser des actes de foi, d'espérance et de charité. Son âme est de la même manière que nous-mêmes, est aussi habitée par l'Esprit Saint. Voilà. Et puis pensez aussi au Saint du Ciel. Les Saints du Ciel, alors leur foi est transformée en vision, leur espérance est transformée en possession. La charité, mais c'est toujours la charité, hein, c'est la même chose. Eh bien, les saints du ciel, les âmes de nos défunts, j'emploie un terme un peu compliqué, les âmes du purgatoire, vous connaissez certainement le purgatoire, mais il faudrait qu'on précise ça. Et nous, les âmes, nous sommes des âmes, nous avons tous une âme, nous avons une âme, nous sommes une âme, nous sommes un corps animé, quoi, de personnes. Eh bien, nous avons tous ça en commun, la foi, l'espérance, la charité. Nous vivons les mêmes, nous posons les mêmes gestes, nous vivons les mêmes actes. Nous espérons ensemble, nous connaissons Dieu ensemble, nous aimons Dieu ensemble, nous sommes aussi capables de nous aimer les uns les autres et de nous rendre service mutuellement. Ben c'est ça la communion des saints. C'est l'unité qu'il y a dans l'ensemble de l'humanité, mais non pas par en bas, nous sommes tous fils d'Adam, ça c'est l'unité brisée, la force c'est que nous avons tous les individus qui ne nous connaissons pas. Par contre, c'est une unité de nouveau créée à partir de Dieu lui-même, par le don du Saint-Esprit. Donc, par votre baptême, par votre confirmation. Ce qui fait que Montlignon, toute cette basilique, tous les bâtiments que vous voyez, tout ce que vous voyez autour de vous, voilà, dans cette salle ici, eh bien, c'est un lieu spécifique où on essaie de prendre conscience davantage de la communion des saints. C'est un mot du coche. On essaie de prendre conscience de la communion des saints et de ce qui nous unit entre nous sur terre, les défunts, les morts, et les saints du ciel. Si vous allez dans la basilique, vous allez découvrir, d'abord vous pouvez regarder par la fenêtre, vous avez au-dessus de la basilique 24 statues de saints. C'est comme une couronne de saints autour de Notre-Dame de Montlignon. Marie, la reine des saints, est entourée de tous les saints du ciel. C'est un peu ce qui est symbolisé à travers les 24 statues des saints au-dessus de la basilique Notre-Dame de Montlignon. Dire que cette basilique est aussi dédiée à la communion des saints, c'est dire que dans la communion des saints, Si nous prions, par exemple, eh bien, nous pouvons prier pour les défunts, ou les saints prient pour nous, ou les défunts aussi prient pour nous et espèrent dans la sainteté des saints. Vous voyez, il y a des grands échanges de grâce, de joie, de bonheur, de sainteté. Il y a une sainteté qui est celle de Dieu, Dieu seul est saint. Dieu, par le don du Saint-Esprit, nous communique sa sainteté. Alors, si moi je suis saint, si moi je me sanctifie, si je pose un acte de charité, si je communie à la messe, si je grandis dans ma sainteté, comme je suis dans la solidarité avec tous les autres membres de l'Église, ceux qui sont dans la communion des saints, si je me sanctifie, c'est toute l'Église qui va se sanctifier. Écoutez bien ceci, vous pouvez le noter d'ailleurs sur vos cahiers. Si je me sanctifie, eh bien toute l'Église, entre parenthèses, toute la communion des saints, est sanctifiée. Et donc en fait, il suffit qu'il y ait un seul membre de la communion des saints qui soit pleinement saint pour que nous soyons sûrs que tous nous parvenions à la plénitude de la sainteté. Il suffit qu'il y ait un seul membre de la communion des saints qui soit pleinement saint pour que nous parvenions tous à la plénitude de la sainteté. Connaissez-vous quelqu'un qui est pleinement saint? Désolé, parce que ça veut dire que vous dormez. Sauf que votre premier rang, mais c'est toujours le même. Connaissez-vous quelqu'un qui est pleinement saint? Jésus. C'était évident, on aurait pu réagir un peu plus vite. Soit c'est que vous dormez, soit c'est que vous ne suivez pas. Jésus, évidemment, est pleinement saint. Et du coup, la solution que nous ayons pour se sanctifier, eh bien, c'est de s'approcher de Jésus, c'est de communier. La basilique à Mont-Lison a été construite pour que tous les pèlerins, les fidèles, viennent se sanctifier à la source de toute sainteté, offrir une messe, célébrer la messe, communier à l'Eucharistie, et puis à partir de là, faire profiter tous les autres membres de la communion des saints de notre sainteté. Maintenant, vous connaissez tout ça? Vous avez tous compris? On vient à Mont-Lison pour communier au corps du Christ, célébrer la messe, au pèlerinage, se sanctifier et ainsi faire accroître la sainteté dans le cœur de tous les membres de la communion des saints. Je viens de vous dire les choses d'une manière à travers la communion des saints. Ça veut dire qu'à Mont-Lison, il y a un lieu qui a été construit pour que les gens puissent venir prier pour tous les défunts, pour toutes les âmes du purgatoire, pour toutes les âmes des défunts, qui ont besoin encore de grandir dans la sainteté, qui ont besoin encore de s'épanouir auprès de Dieu, encore au-delà de la mort. Parce que le purgatoire, c'est ça, c'est le temps que Dieu nous donne pour achever notre sanctification. Mais comme on est mort au purgatoire, on ne peut plus se sanctifier. On ne peut plus rien faire, on est mort, on ne peut plus agir, on ne peut plus poser des actes. Alors on peut poser des actes spirituels, mais ça ne suffit pas pour engager notre vie. Nous, sur Terre, nous engageons notre vie. Vous êtes devenu un mouvement. Vous allez préparer votre confirmation. Ça engage votre vie. Ça engage votre personne. Ça signifie quelque chose pour toute votre vie. Et bien donc, les gens qui viennent à Mont-Lison, ils se disent, je sais que les âmes au-delà de la mort ont besoin encore de sainteté, ont besoin encore d'une sanctification, ont besoin encore de grandir, ont besoin encore de se purifier peut-être pour leurs péchés, etc. Et bien, je vais venir à Mont-Lison exprès pour me sanctifier moi, parce que comme ça je sais que ça sanctifiera les âmes aussi au purgatoire. Et puis je vais en même temps me rapprocher des saints du ciel qui eux aussi sont dans la plénitude autour du Christ en leur demandant d'intercéder pour nous et de nous faire part à nous et aux âmes des défunts de leur plénitude de sainteté. Alors voilà, Mont-Lison est un lieu comme ça d'intercession entre les saints du ciel, les défunts, les âmes du purgatoire et nous ici bas sur terre. Prenez conscience que c'est un lieu unique dans l'Église universelle, dans l'Église catholique. On peut prier pour les défunts dans la communion des saints, pour toutes y espérer dans la sanctification de toute l'Église. On peut le faire partout. À Versailles, au collège, dans une chapelle, à n'importe quel lieu où il y a l'Église catholique, à Rome, n'importe quelle église, on peut prier, on peut faire célébrer des messes, en particulier pour les défunts. On peut se rapprocher comme ça dans la communion des saints, on peut se sanctifier. Mais un lieu spécifiquement dédié à l'intercession entre les vivants et les défunts, Eh bien, ça, c'est unique. Voilà. Donc, vous êtes ici, on appelle ça, mon Dijon, on dit que c'est le centre mondial, c'est unique, c'est universel, mondial, centre mondial de la prière pour les défunts.
Dans
l'espérance et dans la communion des saints. Voilà. Et encore une fois, pensez que ce que. Comment vous dire encore, vous parlez encore de la communion des saints. Comment est-ce que nous nous sanctifions? Nous nous sanctifions, je l'ai dit, en réalisant en nous, en laissant le Christ plutôt réaliser en nous sa vie. Hein, c'est le Christ qui vit en nous. Vous savez, Saint Paul dit ça dans les Galates. Ce n'est pas moi qui dis, c'est le Christ qui vit en moi. Ça veut dire que par le don du Saint-Esprit, quand je pose un acte, et c'est un acte divin. C'est comme si moi j'étais Jésus. Et je suis Jésus qui vit, qui agit, qui aime, qui croit, qui espère, qui est là.
Notez ça,
hein.
C'est extrêmement important. Parce que si on arrivait à le réaliser, c'est tout ça. Laissez le Christ réaliser sa vie en nous. Hein, vous mettez cette phrase de Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis.
C'est le Christ qui vit en moi.
Laissez le Christ réaliser sa vie en nous. Laissez le Christ réaliser sa vie, à lui, hein, en nous. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi.
C'est ce qu'on appelle la vie mystique. C'est qu'on réalise qu'il y a quelqu'un en nous. Et ça ne veut pas dire qu'on est schizophrène, puisqu'on est bien unis dans notre volonté, dans notre personnalité. Mais notre vie, par le don du Saint-Esprit, est celle du Christ. Notre vie est celle du Christ. C'est extraordinaire. Notre vie est celle du Christ. Alors, qu'est-ce qu'il a vécu Jésus quand il était sur terre? Essentiellement, quel est le cœur de sa vie? Quel est l'essentiel de sa mission? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il est venu? Qu'est-ce qu'il a fait? Finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Comme Thérèse de Lisieux, vous savez, quand elle est morte, une de ses religieuses, une de ses sœurs qui était avec elle au couvent, au Carmel, à Lisieux, donc Thérèse est morte à 24 ans, sa sœur a dit, ah ben la pauvre petite, elle est morte à 24 ans, elle n'a rien fait de sa vie. Et vous voyez aujourd'hui que le peu qu'elle a fait, ça rayonne dans le monde entier. Jésus, il est mort à 33 ans. Bon, vous n'êtes pas encore vous n'êtes pas encore mis temps. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus essentiellement? Quel est le cœur de sa vie? Pourquoi? Facile, hein? C'est toujours le même, c'est pas pour ça. J'interroge pas. C'est fatigué avec la main. Au fond, là, allez, je prends au hasard parce que vous dormez complètement. Bon, ben vas-y, ouais. Vous savez? Il est venu pour sauver tous les hommes. Alors, tous les hommes, comment est-ce qu'il a fait pour sauver les hommes? Qu'est-ce qu'il a fait pour sauver les hommes?
Alors, les autres, là, un peu, je réveille, hein. Oui,
tiens, ouais, toi, t'as levé la main deux secondes. Qu'est-ce qu'il a fait pour sauver les hommes?
Elle
a donné sa vie. C'est trop peu. Sacrifié, ouais. Concrètement.
Qu'est-ce qu'il a fait après une
vingtaine d'années, Samy?
Et surtout après
en enfer. Il est descendu aux enfers, au pluriel, mais pas en enfer.
Et après, il a fait quoi?
Donc, il est bon, en deux mots, il est mort, il est ressuscité. Mais avant de mourir, il a souffert sa passion. Trois choses. Il a souffert, il est mort, il est ressuscité. Écrivez. Jésus, c'est ça. Hein. Sa vie se résume à cela. Sa souffrance dans sa passion, sa mort et sa résurrection.
C'est le cœur de la vie de Jésus. Hein, ça, c'est le cœur de la vie de Jésus.
Eh bien donc, il est souffert parce que il nous aimait, mais nous on ne l'aimait pas. Et donc ça, ça l'a fait souffrir. C'est assez logique. Si vous aimez quelqu'un qui ne vous aime pas, ben vous souffrez. Normal. Ouais. Voilà, c'est ça. En fait, l'idée assez géniale de la mission du Christ, elle est celle-là, et c'est pour ça que, en fait, je voudrais dessiner, mais c'est indessinable. Je voudrais vous montrer par un croquis, mais c'est inexprimable. Jésus a souffert parce qu'il nous aimait, mais nous on ne l'aimait pas. Et en fait, il a souffert parce que, pour vous dire en deux mots ce mystère assez profond là que tu viens d'exprimer, à cause du péché, qui est le péché, en résumé, c'est le non-amour de l'homme vis-à-vis de Dieu, c'est le fait que l'homme décide de ne pas aimer Dieu. À cause du péché, l'homme décidant de ne pas aimer Dieu, l'homme s'est condamné lui-même à mourir et à rester loin de Dieu. Le péché, c'est ça, c'est la chute de l'homme loin de Dieu, dans ce qu'on appelait les enfers, voire l'enfer lui-même, loin de Dieu, le plus loin possible de Dieu, et puis la mort. Il y a Jésus qui a voulu... qui aimait malgré tout l'homme, Dieu aimait malgré tout l'homme, Dieu s'est dit ceci, s'est dit, ben, les hommes ne m'aiment pas. Les hommes, donc, meurent, et les hommes tombent définitivement dans la mort, ce qu'on appelait les enfers autrefois, ce qu'on appelle aujourd'hui l'enfer. C'est extrémisé aujourd'hui à cause de du Christ. Eh bien, la solution, c'est que il y ait un homme qui soit parfaitement saint et qui m'aime. C'est Dieu qui dit ça. Dieu dit qu'il y ait un homme qui m'aime, donc qu'il soit parfaitement saint, et qui aille sur terre, qui vienne, qui vive sur terre, et qui meure à la place des autres hommes. Comme ça, mourant à la place des autres hommes, et bien les autres hommes, même s'ils ne m'aiment pas, ils seront sauvés. Ils ne seront pas trop loin de moi. Ils resteront proches de moi. L'idée de Dieu, elle est là. L'idée du salut, elle tient à ceci. Vous comprenez, par le péché, les hommes n'aimaient pas Dieu et se sont retrouvés éloignés de Dieu, malgré eux sans doute, mais bon, ils ont quand même voulu s'éloigner de Dieu. Et puis, Dieu a dit, eh bien, je voudrais qu'il y ait là un homme qui soit parfaitement saint, parfaitement pur, et pour ça, ben, il a fallu que ce soit le Fils lui-même de Dieu, qui aille mourir à la place des hommes pour que les hommes ne meurent plus. Alors comprenez ceci, que Jésus est donc venu mourir à notre place. Et s'il a souffert physiquement dans son corps, c'est parce que son cœur était trop pur et donc aucune blessure ne pouvait atteindre son cœur. Et donc c'est son corps qui a porté toutes les blessures et qui sont toutes les conséquences de nos péchés, les conséquences de nos non-amours, de nos refus d'aimer. Hein? Donc tout ce qu'a souffert le Christ, c'est l'expression, c'est la révélation de notre péché. C'est assez fort ça. Donc il a souffert, il est mort finalement pour que nous puissions ne plus mourir et que nous soyons ainsi réconciliés avec Dieu, rapprochés de Dieu, de nouveau en communion avec Dieu. C'est la grâce de la réconciliation obtenue par la mort du Christ. Pourquoi je vous dis ceci? En parlant de la communion des saints, en parlant de la phrase de saint Paul.
Je me permets de vous interrompre parce que je pense que c'est une explication que vous n'avez jamais entendue de cette façon-là. On a l'habitude de dire oui, que tu es mort, ça ne fait plus rien. Mais vous avez entendu, et j'aimerais que vous le notiez, parce qu'on est tous concernés, parce que le Père vient de dire.
Hein? C'est le mystère du salut, si vous voulez. Depuis que Jésus est mort, plus aucun homme ne peut mourir.
Vous vous rendez compte? C'est incroyable d'entendre ça. C'est uniquement dans la foi chrétienne qu'on peut dire ça. Alors marquez bien, Dieu a décidé qu'il fallait un homme qui aille mourir à la place des hommes. Je n'ai jamais entendu ça.
Cet homme, c'est donc Jésus. Il l'a fait. C'est lui, sa malédiction.
Voilà, tout à fait.
Pardon ?
Il a ressuscité ?
Alors, si, il a ressuscité, oui. Ben oui, parce que, en fait, sinon, il ne nous aurait pas sauvés. S'il était tombé dans la mort comme nous, eh ben, on continuerait de mourir, et puis voilà. Or, il est ressuscité pour nous révéler que sa mort, effectivement, nous a. Effectivement, il était mort à notre place pour que nous vivions. La résurrection n'est que la révélation du salut opéré par la mort. La résurrection n'est que la manifestation du salut opéré par la mort. C'est la mort du Christ qui nous sauve.
Donc pour que nous ne mourions plus, hein, pour que nous ne mourions plus.
Et donc c'est...
Pourquoi je vous dis ça? Je vous l'ai dit tout de suite, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alors vous avez... Parce que je vous ai dit quand même un truc, je comprends pas bien pourquoi vous ne réagissez pas. Je vous ai dit quelque chose de violent, enfin pour moi c'est violent, et vous ne réagissez pas. Je vous ai dit, depuis que Jésus est mort, plus aucun homme ne peut mourir. Il n'y en a aucun qui a réagi, bah et alors, on peut continuer de mourir depuis 2000 ans. C'est un problème. Ah oui, il y a la vie éternelle, il y a la vie après la mort, mais quand même, il faut mourir. Oui, c'est très beau. Mais elle est morte quand même.
C'est qu'elle est morte.
Connaissez-vous quelqu'un qui n'est pas mort, en vertu de ce que je viens de dire? Marie.
Salazar
est mort. Marie n'est pas mort, c'est Marie, c'est tout. Seule Marie a bénéficié pleinement. Seule Marie a bénéficié pleinement du salut.
Marqué, seule Marie a bénéficié pleinement.
Parce qu'elle avait un cœur parfaitement ressemblant à celui de son fils, c'est-à-dire parfaitement pur, nous disons qu'elle était immaculée conception.
Elle a bénéficié pleinement du salut.
Et alors nous, on n'est pas sauvés. On meurt. Ben si on meurt, je dois mourir. Hein. Moi je vais mourir, tout le monde meurt. Marie n'est pas morte. Alors qu'est-ce qui se passe pour nous? Pourquoi est-ce qu'on peut dire quand même qu'on est sauvé même si on meurt? Toujours les mêmes. Ah. Alors en fait, Marie, c'est juste ce qu'il dit. Mais c'est pas ce qu'il a dit quand même. Marie a donc bénéficié du salut d'un coup. Quoi. Même avant que Jésus soit né, elle en avait bénéficié par la grâce de l'Immaculée Conception dans le sein de Sainte Anne. Nous les hommes, parce que nous sommes pécheurs, ce mystère. De ce salut que Dieu nous donne, le fait que nous ne mourions pas, nous le vivons, nous l'accueillons, nous le recevons, nous réalisons historiquement dans notre vie, progressivement. C'est bien qu'au fur et à mesure que nous vivons, que nous grandissons, nous sommes toujours un peu pécheurs, on en va vers Dieu, quoi. Là, c'est Dieu. Comment vous décidez Dieu, vous? Non, je ne vais pas faire l'œil parce que ça, je ne suis pas très beau, mais ça, c'est fait, oui, c'est vrai. On meurt, nous réalisons, si vous voulez, le Christ a vécu notre éloignement de Dieu. Il a vécu notre péché, il n'est pas pécheur. Jésus n'est pas pécheur, mais il a vécu notre péché. Donc il a souffert cet éloignement de Dieu sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne devait pas mourir, mais il a vécu notre mort, notre éloignement de Dieu jusque dans la vie, donc dans la mort, puisque Dieu seul est vivant. Et finalement, nous recevons cette grâce progressivement dans notre vie, le baptême, la confirmation, la communion, la confession régulière, n'est-ce pas? Et donc, c'est pour ça que nous mourons, mais notre mort, c'est pas notre mort en fait que nous vivons, c'est la réalisation de celle du Christ en nous. Ce n'est pas moi qui meurs, c'est le Christ qui meurt en moi. Tiens, saint Paul, il avait dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Notre mort, c'est en fait la réalisation de la mort du Christ, puisque c'est lui qui doit mourir à ma place. Sinon, je ne suis pas sauvé. Si c'est moi qui meurs, je reste dans la mort et je m'éloigne de Dieu. Donc si je, effectivement, historiquement, je vais mourir, mon âme va se séparer de mon corps, etc. Mon âme, elle, de fait, c'est vrai, c'est la vie éternelle, ne va pas mourir. Alors que l'âme d'Adam était morte, entre guillemets, quoi. Elle ne subsistait qu'à l'état d'ombre. Moi, mon âme va être capable de vivre. Donc ça, c'est parce que le Christ est ressuscité. Et donc ma mort, la séparation de mon corps et de mon âme, eh bien, c'est la réalisation en moi de la mort du Christ. Vous voyez, l'état mystique du chrétien. Ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. À ma mort, ce n'est pas moi qui meurs, c'est le Christ qui meurt en moi. Et au-delà de ma mort, déjà aujourd'hui sur terre, il y a la souffrance. C'est la naissance, bon, c'est le baptême. Il y a de la souffrance dans votre vie. Est-ce qu'il y a de la souffrance dans votre vie? Mais cette souffrance, si vous voulez, ça c'est ma naissance ou mon baptême. C'est mon baptême, je suis désolé. Ce trait droit, c'est mon état d'innocence, tant que je suis enfant. Puis après, dès que je commence à être capable d'aimer, ou dès que je commence à être capable d'être aimé, je souffre. Toute ma vie. Ben non, c'est pas génial, mais c'est parce que nous sommes pécheurs. Je meurs, mais c'est le Christ qui meurt à ma place, et je continue ma vie de souffrance. Mon âme. Puis après, c'est que je suis dans la joie, enfin, c'est les saints du ciel, jusqu'à Dieu. Je ne sais pas comment vous exprimer ça. Je voudrais vous parler de la vie au-delà de la mort. Pourquoi est-ce qu'il y a ce purgatoire? Pourquoi est-ce qu'il y a ce chemin encore de l'âme après la mort? Ce n'est que la réalisation historique dans ma vie, dans mon âme, donc avant ou après la mort, ça n'a pas d'importance, de ce qu'a vécu le Christ. Ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est pas moi qui souffre, c'est le Christ qui souffre en moi et qui me libère ainsi de mes péchés. Si on souffre, si on a de la peine, si on a des misères, si on est dans un état lamentable, eh bien, on peut faire en sorte, par amour pour le Christ ou en laissant le Christ nous aimer, on peut faire en sorte que tout ce que je souffre qui me fait de la peine, eh bien finalement, ce soit la réalisation en moi du mystère de passion, mort, résurrection du Christ. Ce n'est pas moi, c'est le Christ. Vous voyez, eh bien, finalement, voyez, pourquoi je dis tout ça? Parce que je voulais vous parler de mon Ligeon et je vous dis ce qui se passe dans l'intimité de votre cœur, dans l'intimité de votre âme. Si vous souffrez, si vous vivez, si vous mourrez, tout ce que vous vivez, c'est le Christ. C'est la réalisation dans le temps du mystère du Christ. Marie a été sauvée d'un coup parce qu'elle était parfaitement pure. Nous, notre salut, nous l'accueillons progressivement. Donc, nous vivons tout ce qu'a vécu le Christ. Nous vivons la passion, nous allons souffrir. Nous vivons la croix, nous allons mourir. Nous vivons la descente aux enfers. Bah, ça n'a rien à voir que le purgatoire, mais ça vous donne un schéma. Cette souffrance qui nous purifie, qui nous arrache progressivement à nos péchés et nous rend conforme au Christ, eh bien, c'est ce que dit notre âme encore au-delà de la mort.
Alors, marquez-le,
hein,
la vie au-delà de la mort, c'est la réalisation de la vie du Christ en moi.
C'est bien que il y a une grande communion entre nous tous, moi sur terre. Si je souffre sur terre, c'est la même chose que une âme au purgatoire qui vit la purification. Je vis la même chose.
La vie au-delà de la mort, c'est la réalisation de la vie du Christ en moi. La vie au-delà de la mort, c'est la réalisation de la vie du Christ.
Réalisation et épanouissement. Ça va jusqu'au bout. C'est pour ça que, une fois qu'au-delà de la mort, notre âme est sûre d'aller au paradis, à gloire. Et encore après, c'est pas fini, puisque à la fin de tout, il y aura la résurrection pour qu'effectivement nous soit manifesté le fait que nous sommes sauvés, que Jésus est mort à notre place et que nous ne sommes pas morts, nous sommes bien suffisant. À la fin du jugement dernier, est-ce qu'on récupérera nos corps? Oui, c'est ça la résurrection. C'est que nos corps ressusciteront, nos corps sortiront du tombeau, nos corps vivront et seront animés par notre âme, par la plénitude de la gloire de la vie éternelle. Croyez-le ça, hein? Croyez-le en la résurrection. Qui ose croire aujourd'hui dans la résurrection? Il y a peut-être, si on fait un sondage au niveau des catholiques en France, qui vient des catholiques, des baptisés, là, il y a peut-être plus de 90% des catholiques qui croient à la réincarnation. C'est du pipeau complet. Même les chrétiens n'osent même plus croire dans la résurrection. C'est un scandale et c'est une apostasie pour l'Église générale. Vous, vous allez être confirmés, la foi de l'Église, c'est la résurrection. Nos corps ressusciteront. Nos corps sortiront du tombeau. Je ne sais pas comment ça se passera, mais nos âmes, dans la gloire du ciel, comme les âmes des saints, nos âmes animeront notre corps, qui aujourd'hui tombe dans la mort, la maladie, la déchéance, le vieillissement irrémédiable. Eh bien, un jour, nos corps jouiront de la gloire éternelle, de la jeunesse éternelle du Christ. Croyez dans la résurrection. Et vous pouvez espérer que, on part de rien du tout, quand on grandit toujours, jusque dans cette résurrection. Et même si apparemment on tombe dans la mort, même si apparemment on va dans la déchéance, même si apparemment tout semble caduque et tout semble disparaître, tout semble passer, eh bien un jour nous vivrons vraiment, nous posséderons notre vie, vraiment nous posséderons notre corps, vraiment, et tout notre être, toute notre personne, corps et âme, vivra dans la gloire. Et ça c'est vraiment l'espérance de l'Église.
Moi c'est important de noter, hein, le père a dit, la foi de l'Église, c'est la résurrection. La foi de l'Église, c'est la résurrection. C'est le fondement de notre religion.
L'homme est vraiment sauvé, quoi. Dieu ne s'est pas moqué de nous. Ben, notez-le sur vos papiers, mais notez-le dans votre tête et dans votre cœur, ça va sortir. Alors voilà, pour faire court, pour vous présenter comme ça mon Lijon, c'est-à-dire vraiment l'essentiel du cœur du message de mon Lijon, c'est la communion des saints, l'intercession, parce que nous pouvons intercéder les uns pour les autres, parce que nous vivons tous la même chose, nous vivons tous la passion, la mort et la résurrection du Christ. Donc au-delà de la mort, je vis la même chose. Ce que je vis aujourd'hui, l'âme de mon grand-père qui est mort il y a 20 ans, je le vis aussi. Ce que vit mon grand-père, ce que vit... vous connaissez des saints?
Oui.
Moi je vous invite une chose, parce que vous êtes à mon Lijon, je vous invite à une chose, chacun, alors secrètement, vous allez vous choisir un saint, que vous allez choisir en vous disant, toi mon gars là-haut, je veux que tu sois mon ami. Prenez-en un qui a vécu il y a très longtemps. Vous décidez, vous en choisissez un, et vous décidez que celui-là, celle-là, c'est votre ami. Vous décidez de l'aimer. Vous choisissez de l'aimer. Vous choisissez de vivre en fonction de son amitié. Vous en choisissez un. Chacun pour vous, secrètement, c'est pas la peine de dire ça comme dit. Et puisque vous êtes aussi à mon Lijon, je vous invite aussi à choisir donc un saint, quelqu'un qui est là, et un défunt aussi, une âme au purgatoire. Choisissez une âme au purgatoire. Alors ça peut être votre grand-père, ça peut être quelqu'un d'autre, un jeune qui est mort trop tôt. Choisissez un défunt dont l'Église ne sait pas s'il est dans la gloire du ciel ou pas. A priori, c'est le purgatoire. Choisissez-en un. Et dites-vous, celui-là, je ne connais pas, je l'avais connu sur Terre, ou au contraire, vous l'avez connu sur Terre, tant mieux, ça peut nourrir un peu l'amitié. Choisissez aussi de l'aimer. Et choisissez aussi de vivre en fonction de cette amitié. Et vous pouvez être sûr que le saint ne sera pas indifférent au choix que vous aurez fait. Si vous avez choisi un tel ou un tel, saint, je sais pas qui, ce saint-là, il est vivant aujourd'hui dans la gloire. On ne regarde pas les saints simplement parce qu'ils ont fait des belles choses quand ils étaient sur terre. Vous avez tous vu des bandes dessinées avec la vie des saints. Eh bien, c'est toute leur histoire sur terre. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, les saints sont dans la gloire du ciel. Aujourd'hui, les saints voient Dieu face à face. Et aujourd'hui, on peut les aimer. Ils sont nos amis, quoi. Nous pouvons les connaître. Et eux aussi nous connaissent, aujourd'hui. Et une âme au purgatoire, c'est pareil. Peu importe ce qu'elle a fait sur terre. Je dis, c'est normal, quelqu'un qui fait bien mal, quoi. Qui a fait plein de trucs, enfin, plein de péchés sur terre. Vous êtes sûr qu'il soit au purgatoire. Peu importe qu'il ait fait du mal, peu importe qu'il ait tué, violé, tout ce que vous voulez, je vais décider de l'aimer. Comme, vous savez ce qu'a fait Thérèse de Lisieux. Elle entend parler d'un condamné à mort. Une crapule, quoi. Elle décide de l'aimer, avant même qu'il soit au purgatoire. Elle décide de l'aimer. La pire des crapules. Bah, pensez aussi au bon larron sur la croix. Jésus a décidé de l'aimer. Choisissez une âme au purgatoire et proposez que tout ce que vous vivez sur terre, si vous souffrez un peu sur terre, si vous êtes en mal, ma copine a mal lâché, si vous souffrez des trucs ridicules comme ça, eh bien, ou des choses vraies, parce que vous pouvez souffrir des choses vraies aussi, pas trop que je me moque de vous. Si vous souffrez des choses, dites-vous, ce que je souffre là, en fait, je suis en communion avec le Christ qui souffre. Et je suis aussi en communion avec toi, l'âme au purgatoire que j'ai choisi d'aimer. Et donc, ce que je trouve, je vais en profiter pour me rapprocher du Christ, pour que toi, tu avances aussi vers le Christ. Voyez, choisissez-vous un saint, et choisissez-vous un défunt, une âme du purgatoire, et tout ce que vous allez vivre, vous allez vous sanctifier pour elle, pour ce saint, en vous aidant pour cette âme du purgatoire, en vous aidant du saint qui lui est dans la plénitude et qui vit. Donc, ça va faire à trois, vous, le saint et l'âme au purgatoire, à trois, vous allez faire... C'est génial d'être à trois. Dieu, ils sont trois. À trois, vous allez pouvoir révolutionner le monde. Vous voulez des fois, je voudrais qu'il y ait la paix dans le monde, l'humanité, vous allez réunir toute la classe, ouais, on va faire une super association pour résorber la faim dans le monde, ou je sais pas, dans quel pays d'Afrique ou ailleurs. Eh bien, commencez spirituellement. Je vous donne la clé là pour transformer le monde. C'est l'amitié entre un saint, un défunt et vous. Vivez de cette amitié. Et si vous le faites, bien alors à ce moment-là, vous êtes de vrais, d'authentiques pèlerins de Montlignon. Du monde entier, je vais vous montrer un truc. Du monde entier, les pèlerins de Montlignon, et puis donc il y a une fraternité de prière, Notre-Dame de Montlignon, qui est répandue sur les cinq continents. Je vais vous montrer la map monde. Sur les cinq continents, il y a des gens qui connaissent Montlignon, qui prie comme ça, comme je viens de vous le dire, qui prie pour les défunts, qui prie pour les âmes du purgatoire, en espérant la gloire du Saint. Vous voyez là maintenant, on a tous les pays qui sont colorés, il y a des gens de la fraternité de Montlignon. Alors si vous le faites, vous, à Saint-Pierre à Versailles, eh bien, vous êtes partie intégrante de toute cette fraternité sur Terre, mais en solidarité avec tous les âmes du purgatoire, tous ceux pour qui nous prions. À Montlignon aussi, vous verrez dans la basilique, il y a un grand meuble qu'on appelle, c'est un peu compliqué de vous l'écrire parce que c'est un mot, on appelle ça l'obituaire. Vous savez ce que c'est qu'un obituaire? Vous voyez au fond? Non. Vous avez plus gros. Voilà, ça c'est gros là au fond. L'obituaire, c'est un registre où on inscrit, si par exemple vous dites moi je choisis telle personne dont je pense qu'elle est au purgatoire, je choisis cette personne là de l'aimer. Vous allez inscrire son nom dans un grand registre. L'obituaire, c'est l'ensemble de tous les registres sur lesquels on a inscrit les noms des défunts pour qui les gens voulaient prier. Vous pouvez, si vous le faites à Montlignon, là, vous dire, je vais choisir telle personne, je pense qu'elle est au purgatoire, par exemple, Hitler. Un autre, Staline. Prenez quelqu'un de bien méchant, là, qui a besoin d'être aimé. Thank you.
Prenez votre cuir et demi. C'est bon. Ne vous décidez pas. Alors, on a posé une question. Ah, ça se trouve. On dit si ça se trouve, Hitler, il n'est pas allé au ciel, il est allé en enfer. Peut-être. Mais comme on n'en sait rien, on espère qu'il soit allé au purgatoire. Et au purgatoire, on peut décider d'aimer. Donc, la personne au purgatoire que vous décidez d'aimer deviendra votre ami, vous sera redevable de son éternité, vous sera redevable de sa résurrection dans la gloire. Hein, vous devra quelque chose, quand même, assez important, d'être responsable du salut des autres. D'être responsable du salut de votre frère. Comme Jésus est responsable de notre salut, celui qui est. Ben nous, on peut faire comme Jésus. Et faire en sorte que toute votre vie, toute ma vie sur terre, est hyper importante parce que de ma vie sur terre dépend le salut d'une personne au ciel. C'est fort ça.
On est responsable du salut.
On est responsable, c'est vrai, de la vie éternelle des autres. Ma vie éternelle, je la dois, peut-être que je la devrai à vous. Du salut des autres, de la vie éternelle des autres.
Les responsables du salut des autres, priez pour les défunts. Mettez de quoi penser à prier pour les défunts.
Moi, je veux mourir sans m'en rendre compte. Je me couche le soir et puis dans la lave, je m'en lave pas, sans souffrance. Sans rien voir venir, sans voir la mort venir à moi, etc. Il y en a qui disent ça. Quand on est chrétien, le désir qu'on a, c'est comme on sait qu'on réalise en nous la vie du Christ, le désir qu'on a, c'est de pouvoir se préparer à la mort. Vous savez, autrefois, Don Bosco, par exemple, Saint-Dominique Savio, faisait cet exercice-là, l'exercice de la bonne mort. Et se disait, voilà, je vais essayer de me mettre en état où je vais me préparer à mourir, en ce sens où je vais préparer mon âme à ce passage, cette rencontre définitive avec le Christ. Alors, on prépare sa mort. Donc, il ne s'agit pas d'espérer, si vous êtes vraiment chrétien, d'espérer mourir comme ça sans vous en rendre compte, comme un accident de voiture, on ne fait rien comme ça. Non, d'avoir le temps de préparer votre âme. Parce que dans la mort, vous allez rencontrer vraiment Jésus et que votre âme soit prête. Je pense que quand, si un jour je vous dis, nous attendons tout de suite, maintenant qu'il y a plus célèbre que Sarkozy, c'est Barack Obama. Ah, nous invitons tout de suite, monsieur Obama. Alors, tout de suite, vous allez dire, ah, attendez, on n'est pas prêt, vous allez adresser vous rasseoir correctement, tout d'un coup, ça va changer, quoi. Alors, quand on reçoit quelqu'un d'important, si vous recevez quelqu'un que vous aimez bien à la maison, chez vous, vous allez faire un peu de ménage, j'espère. Vous allez préparer les choses, quoi. Et vous allez recevoir la personne. Ben, la mort, c'est pareil. Vous allez recevoir le Christ définitivement dans votre âme. Donc, ben, faites un peu de ménage, quoi. Il faut se préparer. Pas mal. Alors, vous voyez, c'est des questions qu'il faut se poser. Vous savez, c'est des questions. Le Seigneur nous dit de nous préparer en permanence. Nous ne savons pas le jour ni l'heure. Donc, il faut rester en état de vigilance.